Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. Avec moi aujourd'hui pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors, en fin d'émission, nous rejoindra Marie-Pierre Haddad pour poser toutes les questions nettes, dans Questions nettes, toutes les questions que se posent les internautes. Vous pouvez déjà poser vos questions avec le hashtag Grand Jury. Alors Stanislas Guérini, vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un coupable idéal. La République En Marche s'apprête à subir une raclée aux élections municipales, fiasco dans les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon. Votre mouvement, ni de droite ni de gauche, penche clairement aujourd'hui plutôt à droite. Vous nous direz dans cette émission si vous vous sentez responsable de cette situation et si vous avez des espoirs pour la fin du mois de juin. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron promet que le monde d'après sera différent. Vous avez d'ailleurs de votre côté fait des propositions sociales, plutôt de gauche d'ailleurs, un chèque déconfinement, un RSA pour les moins de 25 ans. Vous nous donnerez plus de détails tout à l'heure sur ces sujets. Et puis, qui dit acte 3 peut-être de ce quinquennat, dit remaniement. Il arrive, certains dans la majorité font déjà apparemment des petites listes avec le gouvernement idéal. Peut-être que vous avez composé la vôtre, vous nous le direz. Mais d'abord, on va parler de cette actualité, les manifestations dans le monde et en France contre les violences policières. La première question vous est posée par Marion Mourgue.
On a vu depuis quelques jours des manifestations se multiplier en France notamment pour dénoncer ces violences. Est-ce que vous comprenez ces mouvements qui sont, on le rappelle, interdits du fait du contexte du Covid? Est-ce que vous comprenez ce mouvement et qu'est-ce que pour vous ça dit de l'état du pays?
Moi, je suis inquiet pour notre jeunesse qui, je crois, a des doutes aujourd'hui dans son avenir. Et une jeunesse qui est inquiète, c'est une jeunesse qui perd confiance parfois dans ses dirigeants, qui perd parfois confiance dans sa police. Donc je crois qu'on aurait tort de balayer d'un revers de main ces cris de colère, cette volonté de justice qui est parfois exprimée. Est-ce qu'elle peut légitimement s'exprimer dans des manifestations interdites? Non. Cette manifestation que vous évoquez, elle s'est passée dans ma circonscription. J'étais inquiet ce soir-là de voir une manifestation qui était interdite parce que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire et qui a donné lieu à des débordements. Mais encore une fois, je pense qu'il faut apporter des réponses à ces jeunes qui sont inquiets. Cela doit se faire dans la justice. Les affaires judiciaires, elles doivent aller au bout. Et cela doit se faire dans le dialogue également. Il faut absolument rétablir du dialogue entre la police et sa jeunesse. Moi, j'ai pris des initiatives dans ma circonscription. Il y a des associations. J'ai organisé des journées pour que des jeunes puissent rentrer en contact avec des policiers. Et dès lors qu'on crée du contact, on voit qu'il y a beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de respect.
Les mots sont très importants dans la séquence. Ils sont très forts. Vous avez, au lendemain de la manifestation, tweeté surtout sur les débordements. Premier point, il y a eu plus de manifestants qui se sont rassemblés dans le calme que de débordements en eux-mêmes. Depuis, il y a eu ces manifestations en France et dans le monde, avec des mots sur le racisme en général, le racisme dans la police, le racisme dans la société, sur les violences policières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, je comprends, est-ce que vous le dites? Est-ce que vous dites oui, il y a un problème avec le racisme en France? Est-ce que vous dites oui, il y a un problème avec des racistes dans la police? Oui, il y a un problème de violence policière.
Non, d'abord, ce que j'ai tweeté, j'ai dit qu'aucune soif de justice, et c'est important de le dire comme ça, je vous le redis ce matin, il faut l'entendre, ne peut justifier des débordements. Je crois que c'est une position équilibrée. Est-ce qu'il y a un racisme d'État? Est-ce qu'il y a d'un bloc des violences policières? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir du racisme dans la police? Est-ce qu'il peut y avoir des violences dans la police? Oui, parfois. La police est à l'image de notre société. Est-ce qu'il y a du racisme dans notre société? Oui, malheureusement, il y en a. Et parfois, il peut y avoir aussi, on l'a vu, des débordements, des bavures. Elles doivent être systématiquement condamnées. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a indiqué extrêmement clairement cette semaine. Chaque mot, chaque débordement doit faire l'objet de poursuites et de condamnations.
Le mardi, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème, il a changé de position le lendemain.
Ses propos sont extrêmement clairs et je suis aligné avec ce qu'il a dit. Encore une fois, je pense que la réponse, elle passe par deux piliers. Un, la justice, aller au bout des condamnations quand il doit y en avoir, et deux, le dialogue.
Mais vous craignez
pas
qu'il
ne faut pas avoir un dialogue de sourds entre la jeunesse d'un pays et sa police. C'est trop grave. Nous devons entendre ces cris, et nous devons d'ailleurs entendre cette aspiration mondiale. Vous avez raison de rappeler que ces mouvements, ils ont aussi commencé aux États-Unis après la mort de George Floyd. Je m'associerai, il y a une cérémonie, une manifestation mardi. Je veux que notre mouvement, La République En Marche, soit associé à cette indignation par rapport à des violences qui peuvent avoir lieu parfois.
Vous parlez d'indignation, vous ne craignez pas qu'on tombe dans ce que les Républicains appellent la haine anti-flic, où tout le monde serait mis dans le même sac finalement?
Mais je ne suis ni dans le déni, ni dans l'amalgame. Il ne faut pas tout confondre. J'ai eu l'occasion de me rendre de nombreuses fois aux côtés des policiers qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont été bien éprouvés ces derniers mois par la situation sociale que l'on a connue. Il faut leur rendre hommage. Je le répète, il n'y a ni racisme d'État, ni violence policière d'un bloc. L'immense majorité des policiers font un travail remarquable, difficile. Je leur rends hommage ce matin. Mais je ne crois que ça ne serait pas leur rendre service, ça ne serait pas faire honneur à la police de notre pays que d'être dans le déni et de dire « il n'y a aucun problème, il n'y a jamais de bavure, il ne peut pas y avoir de manifestation de racisme ». C'est la ligne que je tiens devant vous aujourd'hui.
L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a une position un petit peu différente de la vôtre. Elle explique ce matin dans le JDD qu'il y a eu plus de violence dans ce demi-quinquennat que pendant d'autres quinquennats. Elle a des mots très durs, violence tranquille, violence hautaine, dit-elle. Elle va trop loin aujourd'hui?
Je pense. Je ne me livrerai pas à une comparaison assez cynique entre le niveau de violence d'un quinquennat à un autre. Ce que je vois, c'est que nous agissons pour recréer de la proximité entre la police et la population. Nous avons investi massivement dans ce quinquennat pour créer des postes de gendarmes et de policiers et pour créer une police de la sécurité quotidienne. Elle avait été supprimée en 2008, c'était la police de proximité. Eh bien, encore une fois, la réponse, nous ne la trouverons pas dans des grands discours, dans des grandes incantations. Nous la trouverons sur le terrain, si nous sommes capables de créer des points de contact entre les policiers et la population.
Stanislas Guérini, donc ça c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, il y a autre chose qui s'exprime. Qu'allez-vous faire de plus et pourquoi le président n'en parle pas?
Bien, c'est au président qu'il appartiendra de se prononcer, de parler de ces questions-là. Moi, je n'ai aucune gêne. Vous voyez, je vous livre le fond de ma pensée aujourd'hui. Encore une fois, ni dans le déni, ni dans l'amalgame. C'est une question de société importante. Il faut savoir l'entendre.
Donc concrètement,
très concrètement,
au-delà de ce qui a été fait, que vous pouvez faire encore?
Poursuivre, parce que ça n'est pas simplement d'annoncer des créations de postes, etc. Il faut que ça se mette en place sur le terrain. La police de sécurité quotidienne, elle se met en place progressivement. Je pense aussi qu'il faut étendre toutes les initiatives qui visent à créer du dialogue entre les policiers et la jeunesse. Je parlais d'initiatives associatives parfois. Je cite son nom, Prox Aventure. C'est une association formidable de policiers bénévoles qui crée des journées de contact pour justement, autour d'activités sportives, autour de stands, pour découvrir...
C'est pas ça qui va combattre la violence des propos.
Ça ne peut être que dans le dialogue quotidien qu'on va pouvoir réussir à créer justement cette confiance. La police, elle est à l'image de la nation, de notre jeunesse aussi. Et donc, il faut savoir créer ces passerelles, ces points de contact, sinon nous n'en sortirons pas par des grandes incantations.
Est-ce que vous craignez justement qu'il y ait de nouvelles crises? C'est-à-dire que soit il y ait des banlieues qui explosent, que ces manifestations continuent, que l'été soit très chaud. Est-ce que ça, vous craignez, après
les crises
qu'on a déjà
connues? Plusieurs membres du gouvernement s'inquiètent hors micro d'un soulèvement dans les quartiers.
Mais je le dis au micro. Je n'ai pas de discours entre celui hors micro et celui devant vous ce matin. Je suis inquiet pour la jeunesse de notre pays. En réalité, la situation, elle ne concerne pas que la police. Elle concerne la situation de notre jeunesse. C'est par ça que je voulais commencer ma réponse.
Je vous interromps,
une jeunesse
je suis vraiment désolée,
qui ne croit plus dans l'avenir de son pays,
Stanislas,
alors elle se pose des questions, alors elle se perd.
Guérini.
Et parfois, elle peut être instrumentalisée
aussi. Stanislas Guérini, la question qui vous était posée, c'était de savoir si vous craignez, comme certains au sein du gouvernement, des soulèvements en France, que ce soit dans les quartiers ou une contestation sociale plus générale?
Bien, ma réponse, ce n'est pas simplement de craindre, c'est d'apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu formuler des propositions précises pour qu'on puisse venir en aide à nos jeunes, pour ne pas faire en sorte que cette génération-là soit une génération sacrifiée. Nous étions en train de gagner la bataille contre le chômage de masse. Nous étions en train d'obtenir des résultats formidables. Par exemple, en matière d'apprentissage, il y a eu une explosion du nombre d'apprentis en 2019.
Et des mesures ont été annoncées cette semaine pour l'apprentissage.
Ce sont les réponses les plus concrètes que l'on peut apporter pour notre jeunesse. Tout le reste n'est que discours. Et je crois qu'il va falloir aller plus loin. Il y a un risque, effectivement, que cet été, que la rentrée 2020 soit extrêmement rude pour nos enfants et pour nos petits-enfants. C'est à nous de leur apporter des solutions. C'est un projet de société d'offrir un avenir à ces enfants et à ces petits-enfants.
Parlons de ces solutions. Vous avez proposé un chèque déconfinement pour les plus précaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de quoi il s'agit? De combien sera ce chèque? Qui pourra y prétendre? Quand est-ce qu'on pourra le toucher? Est-ce que vous savez aujourd'hui
C'est une proposition que je formule. Il faudra en discuter les contours avec l'exécutif. Mais il m'a semblé qu'il était de ma responsabilité, à la tête de La République En Marche, de faire un certain nombre de propositions. Et oui, pendant cette crise, un certain nombre de ménages ont souffert plus particulièrement. Parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus faire d'heures supplémentaires, ils ne pouvaient plus emmener leurs enfants à la cantine, par exemple, bénéficier des tarifs sociaux, et se sont retrouvés en grande difficulté. Voyez les chaînes pour l'aide alimentaire, les files d'attente pour l'aide alimentaire qui explosent. Alors, à ces ménages-là, nous devons apporter des réponses concrètes. C'est la raison pour laquelle j'ai formulé cette proposition pour que l'on puisse aider directement. Nous l'avons déjà fait avec une aide exceptionnelle pendant la crise, qu'on puisse reproduire cette aide pour les ménages les plus précaires.
Mais concrètement, ça veut dire
qu'ils ne s'en sortent pas, qu'ils n'arrivent plus à joindre
les 200, 300, 400 euros.
J'ai estimé que si nous avions une aide de 400 euros qui porte sur les 10% des ménages les plus précaires, ça serait environ 3 milliards d'euros de coûts. C'est à peu près un tiers de ce que les économistes estiment comme ayant coûté pour les ménages sur la période de confinement.
Le président vous a dit banco pour cette idée
C'est en discussion. Je l'ai mise sur la table, comme d'autres propositions d'ailleurs. Et il faudra en discuter. Il me semble que c'est le rôle des formations politiques que d'émettre des propositions, d'être d'une certaine façon un aiguillon pour la majorité. Et je crois qu'il y a aujourd'hui deux sujets. Il y a un certain nombre de ménages qui ont plutôt thésaurisé, le niveau d'épargne a augmenté. Et puis, il y a 10-20% des ménages qui, eux, se retrouvent en grande difficulté. En réalité, notre plan de relance, de reconstruction, il devra tenir sur ces deux jambes,
pour 10% de
à la fois l'offre
aujourd'hui
et la demande, et notamment à travers l'offre, aider les ménages les plus précaires.
Vous avez aussi proposé le livret R pour la reconstruction. Comment vous faites justement pour mobiliser l'épargne des Français et qu'elle soit investie dans l'économie française?
Vous voyez, c'est l'autre jambe dont je parlais à l'instant. Effectivement, il y a un niveau d'épargne qui a augmenté très fortement pendant le confinement. On le sait, la France est un pays d'épargnants. En tête de tous les pays de l'OCDE sur cela,
pousser les Français à investir,
en créant sont toujours des assez produits défiants. Financiers attractifs. On voit que le livret A est en explosion absolue, alors qu'il apporte à nos concitoyens des rendements qui sont assez faibles. Il a une utilité, il finance notamment le logement social. Mais je crois qu'on doit mobiliser l'épargne des Français vers l'investissement qu'on appelle productif, c'est-à-dire qu'on puisse investir dans les TPE, dans les PME de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis la proposition sur la table, qu'on puisse créer un nouveau livret qui mobilise l'épargne des Français et qui soit investi, par exemple à travers la Banque publique d'investissement, dans le réseau de TPE et de PME de notre pays, que nos concitoyens puissent devenir actionnaires des entreprises près de chez eux. Elles sont très endettées, ces entreprises-là. Elles ont besoin qu'on puisse investir en capital pour leur permettre, d'abord dans un premier temps, de se sauver,
puis de se développer. Il faut des mois pour faire un nouveau livret.
Je pense qu'il ne faut pas des mois pour faire un nouveau livret. Il y a tous les réseaux de la Banque publique d'investissement qui sont prêts, qui sont mobilisés. Il s'agirait justement d'offrir aux Français une possibilité d'investissement qui soit peut-être un peu plus rentable que quand on investit dans le livret A et qui soit directement utile à l'économie productive de notre pays. Il y a danger aujourd'hui. Il y a danger que des pans entiers de notre économie tombent, que l'on soit dans un niveau de chômage de masse parce que nous n'aurions pas réussi à sauver notamment le réseau de TPE et de TPE et de PME qui font la richesse de notre pays. Eh bien, je dis à mes concitoyens, c'est le moment d'investir pour ceux qui ont pu mettre un petit peu de côté. Nous aiderons à la fois leur épargne et l'économie productive du pays.
On parlait de la jeunesse. Vous avez fait une autre proposition qui est le RSA pour les moins de 25 ans. C'est justement l'objet de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Guérini, Mélanie Luce, présidente de l'Union nationale des étudiants de France. La situation des jeunes est aujourd'hui très grave. Déjà avant le confinement, le taux de chômage des jeunes avoisinait les 20%. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Vous êtes engagé à soutenir la revendication historique de l'UNEF, qui est l'accès du RSA aux moins de 25 ans. Qu'en est-il concrètement? La majorité va-t-elle agir? Nous sommes dans une situation où nous n'avons aucune protection sociale et il y a urgence à agir.
Voilà, donc vous l'entendez, votre proposition suscite beaucoup d'espoir. Ce n'est qu'une proposition. Est-ce qu'elle sera tenue? Est-ce que...
Ah, c'est pas moi qui peux dire si elle sera reprise. En tout cas, moi, je la formule avec une idée très claire. C'est qu'à la rentrée 2020, aucun jeune de notre pays ne soit sans solution. Que chaque jeune puisse bénéficier d'une activité, d'un revenu et d'un accompagnement. Et donc, on devra mobiliser tous les dispositifs. Il y a la garantie jeune, il y a en fait beaucoup de dispositifs pour aider, notamment les plus précaires, qui devront être mobilisés pour que aucun jeune ne passe entre les mailles du filet.
Le retour des emplois aidés, c'est possible ?
Pourquoi pas, momentanément, pour justement apporter des solutions. La crise que l'on vit, en réalité, elle touche toutes les catégories chez les jeunes, à la fois les plus précaires, j'en ai parlé.
Vous il y a de plus en plus d'étudiants,
d'un mot, bien sûr, je le dis sur tous les tons.
Gabriel Attal, secrétaire d'État, dit c'est se placer dans un esprit de défaite.
Pardon, je vais simplement terminer sur ça. On voit qu'aujourd'hui, dans les chaînes et les files d'attente de la chaîne alimentaire, il y a de plus en plus d'étudiants. C'est insupportable pour notre société. Mais cette crise, elle touche aussi les jeunes diplômés. Ceux qui s'apprêtaient à prendre un emploi de cadre à la rentrée et qui vont trouver, malheureusement, parfois les portes du marché du travail fermées. Et donc, je fais un ensemble de propositions pour que, à la fois, on puisse mobiliser tous les dispositifs, que ce soit la garantie jeune, le RSA jeune, qu'importe, il va falloir les étendre et les rendre plus accessibles. Ça, c'est très clair. Mais aussi de faire des propositions pour que le marché du travail soit plus ouvert à nos jeunes, aux futurs cadres également. J'ai fait la proposition que l'on mette en place une prime à l'embauche pour tous les primo-accédants. Il y a 700 000 jeunes qui vont accéder sur le marché du travail. J'ai fait la proposition pour qu'on supprime toutes les charges sur tous les premiers CDI qui seront signés. Il faut mettre le paquet pour que l'on puisse avoir une priorité nationale au retour à l'emploi et à l'activité. C'est ça la priorité.
On verra si tout ça sera pris en compte ou pas. Il y a un troisième budget rectificatif qui va arriver. On nous promet plus de justice, plus de social. Alors, au-delà de ce que vous avez annoncé là, au-delà du plan hôpital, c'est très important, mais ça, on est au courant et c'est déjà en cours. Vous allez faire quoi? Il y aura quoi dans ce budget? Il y aura quoi dans ce tournant qui va montrer plus de justice et de social aux Français?
Vous savez, je crois qu'il y a, au fond, deux temps un peu distincts. Nous sommes encore dans l'urgence, à l'heure actuelle. Et ce budget, il doit prendre en compte des mesures. C'est le troisième budget rectificatif que nous aurons eu à voter pendant la crise. C'est vous dire la réactivité de ce gouvernement pour mettre en place le chômage partiel, pour mettre en place des fonds de solidarité exceptionnels, pour aider nos entreprises à sauver des emplois. Donc, et nous devrons poursuivre dans ce troisième budget que nous devrons voter.
Par exemple,
avec des mesures pour pouvoir passer au fond d'une logique d'aide à l'inactivité, c'est le chômage partiel, à des logiques d'aide à l'activité. Tout faire pour que les entreprises ne suppriment pas d'emplois. Il y en a certaines qui pourront être tentés de baisser les rémunérations parce qu'elles ne peuvent plus faire face, elles n'ont plus assez d'activité.
Il faudra les aider
pour que ce ne soit pas les salariés qui aient à subir ces baisses de rémunération, mais que l'État, par exemple, puisse compenser...
Et pourquoi pas interdire les licenciements dans la période?
Mais parce que ça n'est pas opérant. Ce n'est pas comme ça qu'on sauve les entreprises. Interdire les licenciements quand une boîte n'a plus d'activité, qu'elle n'a plus de chiffre d'affaires en face. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que nous ferons, c'est que nous aiderons les entreprises, justement, qui baisseront la rémunération, qui seront tentées de baisser les rémunérations, que ça n'impacte pas leurs salariés, mais qu'on puisse momentanément baisser les charges qu'elles subissent contre un engagement absolu qui sera porté au niveau des branches professionnelles ou au niveau des entreprises, de ne pas supprimer l'emploi. C'est tout faire pour aider l'activité.
Les engagements des entreprises par le passé, tenues promesses devant le gouvernement et les États, on a vu parfois que ça ne tenait pas. On le cite, Continental, Bosch, et ils ont fermé leurs portes malgré tout. En quoi ce serait garanti aujourd'hui?
Mais il y a des moyens de conditionner les aides qu'on peut apporter aux entreprises, justement contre ces engagements, et d'y revenir si les engagements ne sont pas tenus. Pendant la crise, nous avons pris des mesures très fortes pour dire que le contribuable, vous et moi, ne doit pas se substituer à l'actionnaire. Que, par exemple, les entreprises qui bénéficient de plans d'aide, il y en a eu de nombreux, je crois que chacun peut le reconnaître, pour les entreprises, ne se livrent pas à des programmes de versement de dividendes ou de rachat d'actions. C'est une logique qu'il nous faudra conserver pour l'après, justement. Faire en sorte que nous ne tournions pas le dos, pardon d'un mot, mais je ne veux pas que nous tournions le dos à une politique d'aide à la compétitivité des entreprises. Cela serait mortifère pour le pays. Mais Il faut une logique de responsabilité partagée. Il faut que les entreprises s'engagent davantage dans la transition économique, écologique, dans la transition, dans l'aide au social. Eh bien, cette logique de responsabilité partagée...
Un virage social par les entreprises, en quelque sorte.
Elle doit évidemment prévaloir pour
la France. Mais est-ce que, justement, dans les entreprises, pour faciliter le pouvoir d'achat, pour relancer la consommation, il faut aller vers des mesures comme l'intéressement, la participation, ce que proposait Gérald Darmanin il y a 15 jours ici?
Bien entendu, vous savez, j'étais extrêmement engagé sur la loi Pacte que nous avons votée, qui a déjà considérablement simplifié les mesures pour verser des plans d'intéressement. Oui, je crois que nous devrons aller plus loin. Il y a beaucoup de manières de le faire sur cela.
La participation, c'est une bonne idée ?
C'est une excellente idée. J'avais plaidé pour ma part pour qu'il y ait une répartition de la participation plus égalitaire au sein des entreprises. Peut-être que c'est une idée que nous pourrons reprendre à cette occasion-là. Tout faire pour que l'intéressement ou la participation puisse s'étendre dans les petites entreprises aujourd'hui. On voit bien que quand on est salarié dans une grande boîte en CDI, bien on est plutôt protégé, on bénéficie plutôt de plans d'intéressement et de participation. Mais quand on est salarié d'une PME, alors on est un peu moins bien protégé et on n'a pas ces mécanismes-là. C'est sur ça qu'il va falloir évidemment lutter pour étendre ces dispositifs de participation.
L'un des grands débats du moment, c'est savoir comment relancer l'économie, où prendre, où trouver l'argent, et est-ce qu'il faut faire contribuer les plus aisés. On a compris que l'ISF, la porte était fermée, mais Richard Ferrand lui-même a dit qu'il faudrait penser à une contribution des plus aisés, ne serait-ce que pour le symbole. Donc on fait quoi ?
Si ce n'est pas l'ISF,
c'est quoi ?
Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Moi, je ne suis pas favorable, je le dis clairement, à ce que dans cette sortie de crise, nous ayons des hausses d'impôts. Je ne pense pas que ça soit la bonne réponse à apporter. Vous l'avez vu, je n'hésite pas à proposer des mesures qui sont, vous avez dit, plutôt de gauche. Vous savez bien que je ne suis pas très à l'aise dans ce vocable-là aujourd'hui. Mais en tout cas, des mesures sociales pour qu'on puisse aider les plus défavorisés, qu'on puisse justement avoir ce pilier-là.
Mais je ne pense pas,
eh bien, vous voyez, je vous fais une réponse claire aujourd'hui, que cela doit être financé par des hausses d'impôts, y compris symbolique. Moi, je crois qu'il va falloir poursuivre notre politique de libérer et de protéger. Sauf que dans la période qui s'ouvre, il va falloir plus de protéger et plus encore de libérer. C'est-à-dire tout faire pour qu'on puisse créer de l'activité.
Même l'impôt sur la fortune immobilière, on n'y touche pas ?
Je ne suis pas pour y revenir. Nous avons enlevé de l'ancienne ISF la part qui était investie dans les entreprises pour garder la part qui était investie dans l'immobilier. Je ne suis pas pour qu'on revienne sur cette mesure de début de quinquennat.
Pour relancer l'économie, est-ce qu'il faut accélérer le déconfinement ? C'est ce que semble penser le président du Conseil scientifique. Est-ce qu'il faut finalement des restaurants, des bars qui ouvrent plus vite ? Est-ce qu'il faut permettre que l'économie reprenne plus facilement ?
Vous savez, nous avons eu un principe qui a été porté par le Premier ministre, porté par le gouvernement, qui était le principe de progressivité. Et on voit bien que notre stratégie de déconfinement, elle fonctionne. Elle nous a permis de maîtriser la propagation de ce virus. Il faut s'en féliciter et il faut féliciter les Français pour les grands sacrifices qu'ils ont pu faire pendant cette période.
Mais est-ce qu'aujourd'hui,
donc,
il ne faut pas aller plus loin ?
Je considère qu'il faut continuer sur ce principe de progressivité et écouter les recommandations des autorités scientifiques. En l'occurrence, le président du Conseil scientifique dit on peut peut-être accélérer certaines mesures, notamment sur le périscolaire. Eh bien, ça me semble de bonne logique. Et donc, je serais plutôt favorable à ce qu'on puisse suivre les recommandations du président du Conseil scientifique.
Oui, vous parlez de ce déconfinement qui s'accélère. Est-ce qu'il faut demander plus d'efforts aux Français, par exemple ? Est-ce qu'il faut leur demander de renoncer à un jour férié, une semaine de vacances scolaires ? Est-ce que les Français, dans la période exceptionnelle, doivent faire un effort ?
Vous savez, je crois que les Français ont fait des efforts inouïs ces trois derniers mois. Inouïs. Des sacrifices pour pouvoir sauver nos aînés. Et il fallait faire cela. Il fallait faire ce choix. Alors, je ne pense pas que le moment soit venu de rajouter des efforts aux efforts. Nous allons traverser ensemble une vague, un choc économique et social considérable. Je crois que le premier effort, c'est se battre pour maintenir l'emploi, pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité dans notre pays qui reprenne, et ça ne doit pas passer par des efforts supplémentaires pour nos concitoyens.
Est-ce que l'annualisation du temps de travail, comme le proposent les Républicains, ça vous semble une bonne solution ?
Vous savez,
branche par branche.
Vous êtes en train de me faire le tour des réflexes pavloviens de la gauche et de la droite. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts quand on a une difficulté ? Est-ce qu'il faut, ça c'est la gauche, est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail quand on a une difficulté ? Ça c'est la droite. Eh bien, je ne suis favorable ni à l'un ni à l'autre. Nous avons pris depuis le début du quinquennat des mesures très importantes pour libérer l'activité, défiscaliser les heures supplémentaires. C'est quelque chose que nous avons fait pendant ce quinquennat. Je crois que le débat sur les 35 heures, pardonnez-moi, mais c'est un débat daté et en tout cas qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui.
Parlons justement de l'acte 3 d'Emmanuel Macron, puisqu'on attend un acte 3 dans cette dernière partie de quinquennat. Amélie Carouer, allez-y.
Oui, comment l'acte 3 peut se concrétiser si vous envisagez de maintenir la réforme de l'assurance chômage et, comme on le lit, de remettre sur l'établi la réforme des retraites avec tout le cortège de colère et de manifestation que ça peut bien sûr amener?
Vous savez, je crois qu'il faudra beaucoup d'humilité pour ouvrir cet acte 3. Il devra se faire dans le dialogue avec les territoires, avec les corps intermédiaires également. Est-ce qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain des difficultés qui touchent le pays? Je ne le pense pas. La réforme de l'assurance chômage, elle devra être certainement adaptée. J'ai plaidé parmi les premiers pour qu'on puisse revoir les règles justement d'indemnisation ou les critères d'éligibilité à l'indemnisation chômage. Parce que nous allons vivre une période, force est de constater, extrêmement difficile avec un chômage de masse. Donc, je plaide pour qu'on puisse, en lien avec les partenaires sociaux, en discussion avec les partenaires sociaux,
Il faut se réinventer, mais en gardant les grandes réformes déjà engagées.
En gardant, en tout cas, nos principes. Et l'assurance chômage me semble être un bon exemple de cela.
La réforme des retraites.
Pardon, je termine juste, mais ce serait dommage de supprimer complètement la réforme de l'assurance chômage, qui a amené beaucoup d'améliorations, un meilleur accompagnement, par exemple, des demandeurs d'emploi, et de l'abandonner complètement. Donc je suis pour en revoir le cadre, mais ne pas en abandonner les grands principes. Et pour la réforme des retraites, c'est la même chose. Est-ce que vous croyez que je vais vous dire aujourd'hui, moi qui ai défendu ce principe de retraite universelle par points, qui me semble plus juste pour les femmes, pour les petites carrières, pour les carrières hachées, pour les petites rémunérations, que ce principe-là aujourd'hui n'a plus lieu d'être? Non, je continue d'être convaincu des fondements de cette réforme des retraites, pardon. Mais je crois qu'il faut être souple sur le calendrier. Il faut réfléchir
à ce que nous pouvons. Mais elle est toujours sur la table, cette réforme. On a du mal à comprendre ce que souhaite le président. À la fois, on a l'impression
qu'il y tient à sa réforme des retraites. Donc vous ne dites pas tout de suite, mais plus tard. On ne la jette pas tout de suite.
Moi je ne suis pas pour la jeter. J'espère m'être exprimé clairement devant vous aujourd'hui. Mais en revanche, je suis pour être souple sur le calendrier. Elle nécessitera d'être instaurée avec beaucoup de dialogue. Force est de constater qu'il y avait un grand nombre de points de blocage, vous l'avez rappelé vous-même. Et donc, je suis ouvert sur le calendrier et c'est ça qu'il nous faut réfléchir pour les prochaines semaines.
Alors, qui dit acte 3 dit aussi remaniement. La question principale qui se pose, mais on y reviendra après la pause, faut-il changer de Premier ministre pour changer de cap?
Bien, si pour vous c'est la question principale, c'est pour moi une question secondaire, mais peut-être que j'aurai l'occasion après la pause de vous détailler pourquoi.
L'Élysée dit tout simplement que s'il y a un nouveau cap, de nouvelles réformes, il faut peut-être une nouvelle équipe pour l'incarner, donc tout ça est cohérent.
On voit bien que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. La vie politique nous ramène toujours à parler personne, casting, est-ce qu'il faut changer telle ou telle personne dans le dispositif? Eh bien moi je crois qu'il faut commencer par le fond, par le projet que nous voulons poser sur la table. Cette crise a largement rebattu les cartes, effectivement. Et donc, il faut d'abord le projet et ensuite la question institutionnelle et la question des personnes.
On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. On va notamment parler à Stanislas Guérini des élections municipales.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, c'est plus possible.
Avec toi, tout est possible. Dis toujours.
Dès demain chez Lidl, la barquette de 500 grammes de cerises est à 2,99€, patron.
Moins de 3€ les 500 grammes de cerises? Mais c'est pas possible.
Et Origine France, patron, hein. Passez-moi l'expression, mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,98€ le kilo, catégorie 1, calibre 24 et plus, Origine France. Nos 1550 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Un message du président du réseau d'aide à domicile, ADAP.
Les personnes dépendantes à domicile traversent un moment difficile. Partout en France, les équipes ADAP prennent les précautions nécessaires pour assurer la toilette, les courses, les repas. Merci pour vos nombreux messages de soutien qui les encouragent. Vous pouvez compter sur leur engagement et leur vigilance.
Retrouvez le réseau ADAP sur ADAP.fr.
Bon chérie, on y va là, on va être en retard.
Oui, deux secondes. J'efface cette toute petite tache du pare-brise de ma Sandero neuve.
Mais ça fait 5 minutes et il n'y a rien du tout.
C'est bon, j'arrive. Attends, juste cette dernière petite marque.
Depuis 15 ans, Dacia rend le plaisir du neuf accessible. Et en ce moment, profitez de Dacia Sandero à partir de 5 290€, prime à la conversion de 3 000€ déduite sous condition de reprise. Pour Dacia Sandero Access SCE 75.9 selon tarif du 2 juin 2020, sous condition de mise au rebut et d'éligibilité dans la limite des 200 000 premières primes à la conversion. Voir détails sur primealaconversion.gouv.fr.
RTL, il est midi et demi. Le rappel des titres avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Maintenir l'emploi en France, c'est la priorité selon Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Il propose un chèque déconfinement pour les ménages les plus modestes, une aide de 400 euros qui coûterait 3 milliards à l'État. Stanislas Guérini qui se dit inquiet pour la jeunesse au lendemain des manifestations contre les violences policières. Oui, il y a parfois du racisme dans la police, mais pas de racisme d'État. Invité dans le grand jury RTL, LCI Le Figaro, il estime aussi qu'il n'est pas légitime de manifester dans ce contexte de pandémie. On rappelle qu'en théorie, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. Une règle bravée par 23 000 manifestants hier dans toute la France. Mouvement mondial déclenché par la mort de George Floyd à Minneapolis. Rassemblement aussi à Washington, Tokyo, Sydney ou encore Tunis. Les mesures dans les écoles pourraient être assouplies d'ici la fin juin, selon le président du conseil scientifique, notamment pour la récréation, les repas et le sport. Le professeur Delfraissy souhaite que le comité arrête ses travaux d'ici le mois de juillet. Et puis un premier sondage IFOP donne la liste d'Anne Hidalgo et des écologistes en tête au second tour des municipales à Paris à 44% des intentions de vote. Devant la liste LR de Rachida Dati à 33%, la candidate La République En Marche, Agnès Buzyn, arrive troisième à 20%. Dans un instant, la suite du grand jury sur RTL. Merci de nous suivre.
64 ans, et alors ? Hulda ne se laissera pas faire. Détective islandaise hors pair, elle ne va rien lâcher. Dans La Dame de Reykjavik, elle va tout faire pour trouver le coupable, défendre les femmes et se battre contre l'oubli. Découvrez le destin d'une femme hors du commun, forte et fragile à la fois. D'après le New York Times, La Dame de Reykjavik est la meilleure héroïne tragique que nous avons lue depuis longtemps. Une héroïne qui restera dans votre mémoire bien après la dernière page. La Dame de Reykjavik, de Ragnar Jonasson, en poche aux éditions Point.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont vraiment terribles.
Me dis pas que tu veux me parler de Lidl.
Bah comment vous avez deviné ? Dès demain, le kilo de tomates rondes en grappe est à 1,49€.
1,49€ le kilo ? Là tu me racontes des craques.
Oh non patron, 1,49€ les tomates rondes en grappe. C'est le vrai prix, hein ? Un prix Lidl quoi.
Oh, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et des gants sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr.
4 990€ ? L'optimisme, mieux que ça devrait.
Quoi ?
Bah, le prix de Fiat Panda.
Comment ça ?
Panda est à 4 990€ avec la nouvelle prime à la conversion.
Pour tous ?
Oui, quasiment. Et toujours garantie 10 ans.
Génial, et tu peux la payer en 2021 ?
Ouais, et attends, t'as pas vu le prix de leurs hybrides ?
De vraies occasions à ne pas rater.
Sont neuves.
Chez Fiat, partez en Panda des 4 990€ et payez-la en 2021. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Jusqu'au 30 juin, payez en 2021 sous condition de location longue durée si acceptation par Lesys France. Panda 1 point de prime conversion déduite. Détails sur Fiat.fr.
Fiat.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Alors, juste avant la pause, Stanislas Guérini, on parlait de remaniement, de la place du futur Premier ministre peut-être. Il y a d'autres événements qui agitent la majorité. Marion Mourgue du Figaro vous interroge.
On a appris vendredi par le site Marianne que le patron des députés En Marche avait fait une note au président de la République sur le remaniement en faisant son propre casting, une note qui a fuité dans la presse. Est-ce que c'est un procédé normal de voir presque des règlements de compte au sein de la majorité ? Est-ce qu'il faut qu'il soit sanctionné, qu'il s'excuse ?
Vous savez, ce sont des propos qui ont été dérobés, visiblement. Est-ce anormal que le président de groupe puisse adresser des avis au président de la République ? Cela ne me semble pas totalement anormal. Maintenant, je suis très en difficulté pour commenter des propos que je n'ai même pas lus moi-même. Donc, quelle affaire, voyez ?
Il n'affaiblit pas lui-même le Premier ministre.
Mais je ne crois pas, et j'ai eu l'occasion, pour ma part, de nombreuses fois, de rappeler que le Premier ministre a été extrêmement solide dans la gestion de cette crise, qu'il dirige la majorité. Je ne me pose aucune question quant à sa position. L'important, vous savez, dans ce moment où il y a tant d'enjeux pour le pays...
Peut rester. Mais il peut terminer à
vous la voyez sur la base de propos et de correspondances privées qui ont été dérobées, remettre en cause la présidence du groupe. Je crois que ça n'est pas sérieux. Et j'appelle chacun à beaucoup de responsabilité, beaucoup de calme. Vous savez, nous sommes dans une période qui est une période agitée, compliquée. Nous allons vivre une crise économique, sociale. Nous en avons largement parlé. qui est très importante. Les vrais enjeux pour le pays, ils sont là.
Et c'est la raison pour laquelle vous auriez bien besoin d'une majorité certainement apaisée, elle aussi, et pas trop compliquée. Et c'est l'inverse qui se passe avec la création de deux groupes encore récemment.
Est-ce que, c'est pour ça que j'appelle le calme à la responsabilité.
Est-ce qu'on peut dire que la majorité se porte bien ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une défiance vis-à-vis de la politique menée par le président de la République ? Et est-ce qu'on peut dire que ce parti en l'état peut accompagner le président jusqu'en 2022.
Vous savez, je crois qu'il n'y a aucune défiance vis-à-vis du président de la République. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises à l'Assemblée nationale, à chaque fois a été rappelée la totale fidélité à la politique menée et au président de la République. Donc je crois que le sujet n'est pas là. J'ai entendu parfois que notre majorité serait mise en danger à l'Assemblée nationale. On ne nous avons jamais voté les textes avec autant de voix à l'Assemblée nationale. Après, il y a les affaires des groupes parlementaires. J'ai eu l'occasion de dire que tout ça me semble être à contre-temps dans le moment que nous vivions, précisément au moment où nous sommes en train de définir la ligne et le mandat pour l'après qui va justement beaucoup nous occuper dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mmh. Je crois que c'est le moment d'être rassemblés, unis, sereins, de donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, moi, il y a 3 ans, je travaillais dans une blanchisserie industrielle. Je n'étais pas en responsabilité et aux grandes responsabilités que les adhérents de La République En Marche m'ont confiées. J'essaye tous les jours de donner le meilleur de moi-même, de ne pas rajouter aux difficultés, de jouer collectif, de rassembler. Je crois que c'est ça être en responsabilité. Ce n'est pas facile, l'exercice d'être un parti majoritaire ou un groupe parlementaire. Quand on est en responsabilité, on doit faire face à des grandes difficultés. Eh bien, donnons le meilleur de nous-mêmes, agissons dans la lumière, en responsabilité. Je crois que c'est ça qu'il faut que chaque membre de cette majorité ait en tête aujourd'hui.
Votre travail en ce moment, et vous avez du boulot, ce sont les élections municipales, mais juste avant, un mot sur la crise du coronavirus. Le gouvernement va créer sa propre instance pour évaluer la gestion du Covid, alors que l'Assemblée et le Sénat, on le sait, ont lancé 2 commissions d'enquête. Gérard Larcher, le président du Sénat, n'est pas content, ça suscite un certain émoi. Pourquoi cette commission ? À quoi ça sert ?
Je n'en ai pas exactement les contours. J'ai compris qu'il s'agirait de se doter des moyens d'audit pour le gouvernement en faisant appel à des scientifiques, en pouvant avoir un comparatif international. Je ne crois pas que ça soit l'objet de la commission d'enquête au Sénat ou à l'Assemblée nationale. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a la moindre prérogative de ces commissions d'enquête à l'Assemblée ou au Sénat qui serait retirée ou supprimée parce que l'exécutif mène un audit indépendant avec des scientifiques étrangers.
Mais il n'y a pas un mélange.
La réponse est évidemment non.
Il n'y a pas un mélange des gens, quand même.
Ces commissions, elles pourront tout à fait travailler. Mais est-ce que cela vous semble anormal, malsain, que l'exécutif, ayant eu à gérer, avec les difficultés que l'on connaît, une crise de cette ampleur, cherche à faire le retour d'expérience sur cette gestion de crise, cherche à faire appel à des scientifiques étrangers pour pouvoir justement apporter un regard sur la façon dont nous avons eu à gérer la crise. Tout ceci ne me semble pas du tout non complémentaire avec le travail qui va y avoir lieu à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc là aussi, je crois qu'il ne faut pas chercher à surpolitiser tous les événements. Le gouvernement essaie de tirer des enseignements et je pense que c'est très bien ainsi.
Vous êtes très occupé, vous savez qu'à la fin du mois, il y a des élections municipales.
Ça ne m'a pas échappé.
Ça vous a pas échappé. Amélie Carouer de TF1 LCI va vous interroger.
Oui, alors pardon, les mots sont ceux des rangs de La République En Marche, claque, fiasco, débandade. Voilà comment les choses sont présentées. Comment vous abordez dans un tel contexte et comment vous qualifiez vos chances dans quelques jours ?
Est-ce que le premier tour des élections municipales a été bon pour La République En Marche ? Non. Nous n'avons pas bougé les équilibres établis tels que nous aurions souhaité le faire avec cette ambition-là. Pour autant, moi, je n'ai pas perdu mon cap dans ces élections. Je sais exactement quels sont les objectifs que je m'étais fixés pour le mouvement que je dirige dans ces élections municipales. Ce n'était pas un objectif de conquérir des dizaines de grandes villes françaises avec mon drapeau La République En Marche. C'était de pouvoir implanter, d'avoir cette première étape d'implantation de notre jeune mouvement. Est-ce que nous allons le faire ? Oui, je le pense. Demain, il y aura plusieurs milliers, dizaines de milliers d'élus municipaux de La République En Marche dans tous les territoires, dans des petites
municipaux, il y en aura 500 000 à la fin.
Oui, mais
au tennis, on dirait que vous jouez petit bras. C'était peut-être un objectif.
Vous savez, c'est difficile à la fois de me dire qu'on n'avait pas fixé les bons objectifs et que ces objectifs étaient petit bras. Moi, je sais où je vais. On compare ce chiffre toujours avec le nombre de conseillers municipaux. Beaucoup sont en réalité sans étiquette, donc le comparatif n'a rien à voir. S'il y a demain 10 000 marcheurs qui sont en responsabilité dans les communes de notre pays, eh bien, nous aurons avancer. Et je peux vous dire une chose, les prochains maires de La République En Marche, ils se trouvent parmi ces conseillers municipaux, parmi cette nouvelle génération. Cette génération de conseillers municipaux, elle donnera des maires. Vous savez, cela a pris plus de 10 ans au général de Gaulle pour pouvoir implanter le parti qu'il avait fondé. Nous sommes au début du chemin. Et je pense que personne ne comprendrait un manque d'humilité dans le travail que nous sommes en train de faire. Oui, cela prend du temps de s'implanter. Mais moi, je n'ai jamais perdu de vue les objectifs que je m'étais fixés. Je pense qu'ils seront atteints. Après, est-ce qu'on veut toujours plus bouger les équilibres établis?
Justement,
oui, bien sûr. Il y a un deuxième tour.
Les objectifs,
nous allons continuer, évidemment,
les
notre travail de conviction.
Est-ce que le « en même temps » est toujours de vigueur à En Marche, puisqu'on voit que les alliances avec les Républicains sont bien plus nombreux que les alliances avec les partis de gauche et que vous avez besoin de ces alliances, justement, pour un ancrage territorial?
D'abord, un mot là-dessus, parce que je lis, comme vous, beaucoup de commentaires. En réalité, nous avons fait des accords, des alliances avec des personnalités de la vie politique qui venaient de la gauche et de la droite. Oui, je crois au dépassement des clivages dans la vie politique et ça continue de se manifester dans
droite,
ces élections municipales. Bon, si vous voulez une seconde de statistique, nous avons fait un tiers d'alliances avec des personnalités venues de la gauche, deux tiers avec des personnalités venues de la droite. Quelle était la carte électorale de 2014 du scrutin sortant? Deux tiers d'élus de droite, un tiers d'élus de gauche. Donc, il ne me semble pas qu'on soit totalement déséquilibré.
Mais ça veut dire que sur votre nom, personne n'arrive à prendre une ville.
J'assume.
C'est quand même une faiblesse, non ?
Totalement, si. Il y a, à l'issue du premier tour, vous voyez, une quarantaine de maires La République En Marche, qui sont adhérents de La République En Marche, qui sont élus. C'est modeste, c'est un démarrage, ce n'est pas rien. Nous avançons progressivement. Mais moi, j'assume totalement de travailler avec des personnalités progressistes qui sont constructives avec la majorité présidentielle, qui ont fait du bon boulot sur le terrain, parce que, je vais vous dire quelque chose de très simple, je pense que nos concitoyens, ils raisonnent exactement comme ça quand ils élisent un maire. Ils élisent pas une étiquette partisane.
Lyonnais, peut-être.
Ils choisissent ceux qui font du bon travail, et après, nous faisons les choses en cohérence. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé un certain nombre de lignes, j'ai distingué un certain nombre d'accords, certains... Je les ai approuvés, d'autres, je ne les ai pas approuvés, bon. Exactement selon
en
cette
cas,
logique-là.
Ces alliances et certaines retentissantes de Gérard Collomb, qui n'est fait plus partie d'En Marche, certes, mais pousse la gauche à dire que c'est une clarification et que vous êtes bien à droite. En ce qui concerne...
Pardon d'un mot,
Noé.
Mais je n'ai pas approuvé cette alliance. Cela a eu suffisamment de retentissement.
François Bayrou a dit que vous aviez tort, d'ailleurs.
Peut-être, vous voyez bien que cela peut susciter du débat. En tout cas, moi, j'ai fait le choix pour La République En Marche de dire que cette alliance-là faite dans le bureau de Laurent Wauquiez, je ne l'approuvais pas. Pourquoi ? Pour la raison que je viens d'indiquer. Parce que je considère qu'il faut de la clarté. Je suis prêt à travailler avec des élus venant de la droite, les amis de Fabienne Keller à Strasbourg, avec qui nous avons fait campagne ensemble aux élections européennes, les amis d'Alain Juppé.
Pourquoi il y a des alliances avec certains républicains et pas avec d'autres ? Est-ce qu'il y a des bons les républicains et des mauvais les républicains pour vous ?
Pour les raisons que je suis en train de vous indiquer. Je crois qu'en réalité, la droite française est fracturée. On le voit d'ailleurs parfois dans les votes à l'Assemblée nationale, de plus en plus souvent. La droite française est fracturée entre une droite libérale, européenne, plutôt constructive avec cette majorité, et puis une droite plutôt souverainiste, qui regarde davantage à sa droite que vers le centre, qui a parfois la nostalgie de la manif pour tous, et qui est dans une opposition systématique avec ce gouvernement. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est non. Ils votent contre le plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. Eh bien, pardonnez-moi d'avoir de la cohérence, mais moi, avec cette droite-là, je considère que, y compris au niveau local, il est difficile de travailler, parce que sinon, nous perdrions nos valeurs et notre cohérence politique. Et c'est exactement les choix, la logique qui a conduit à faire les choix que j'ai faits, accepter un certain nombre d'accords à Bordeaux, à Strasbourg, avec une droite telle que je la décris, libérale, européenne, et puis dire que parfois, il y a des alliances que je ne comprenais pas.
Ce qui se passe, vous n'évoquez pas la ville de Perpignan. Deux colistiers du candidat En Marche, Romain Gros, ont rejoint et ont décidé de soutenir Louis Alliot. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le casting que vous avez fait là-bas ?
Pardon, mais vous oubliez de mentionner la position la plus importante, c'est-à-dire celle de notre tête de liste, investie par La République En Marche, qui, face au danger du Front National, a pris la décision courageuse, qui était la ligne du mouvement La République En Marche, de se désister. Ce n'est jamais facile, quand on est encore qualifié pour un deuxième tour,
de dire... La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que le Front Républicain est mort aujourd'hui ?
Je retire totalement ma liste. Il a fait ce choix dans la clarté et je l'ai salué. Après, il y avait effectivement deux personnes sur sa liste qui n'étaient pas adhérentes de La République En Marche, je le mentionne. Et si elles avaient été adhérentes de La République En Marche...
Numéro 3 de la liste, tout de même.
Pardon, mais si elles avaient été adhérentes de La République En Marche, j'aurais demandé immédiatement une procédure d'exclusion. Parce que, évidemment, je n'accepterai jamais que nous soyons le marchepied du Front National. Romain Gros a pris cette position. Ceux qui ont rejoint la liste Front National ne font pas partie de la République en marche et n'auraient pas pu faire partie de la République.
Le Front Républicain ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est la meilleure solution. Mais
pas de notre fait, pardon, mais à chaque ville où il y avait un danger que le Front National puisse passer et où nous étions encore engagés au deuxième tour, à Cavaillon, à Draguignan, à Perpignan, nous avons fait ce choix courageux de retirer nos listes. Vous ne trouverez pas une ville de France où la République en marche n'a pas fait ce choix-là. Ne me demandez pas à moi, demandez aux autres formations politiques, celles qui ont effectivement,
depuis longtemps, fait
exploser le Front Républicain. Ce n'est pas du fait de la République en marche. Nous avons toujours eu ce combat constant contre les extrêmes, contre Marine Le Pen et son parti, et ne comptez pas sur nous pour abandonner cette posture aujourd'hui.
Agnès Buzyn, Amélie Carouer à Paris.
Ah oui, les municipales à Paris. Là encore, je vais être assez directe. C'est plié ?
Vous savez, je crois qu'il n'y a aucun combat qui est plié d'avance. J'aurais considéré que cette élection était perdue. Peut-être que j'aurais écouté d'une oreille plus attentive Rachida Dati qui nous proposait de faire un front pour battre Anne Hidalgo. Je n'ai pas souhaité cela. Pourquoi ? Parce que je considère que nos idées, que la voix de la majorité présidentielle mérite d'être défendue dans cette campagne. Nous portons un projet qui n'est porté ni par Rachida Dati, ni par la maire sortante Anne Hidalgo.
Mais quand vous voyez
nous avons des propositions à faire entendre et nous comptons les faire entendre dans cette campagne. Ceux qui soutiennent la majorité présidentielle, l'action du président de la République, l'action de ce gouvernement, savent que nous aurons besoin d'une maire de Paris qui travaille de façon constructive avec le gouvernement demain, qui prêtera plus d'attention aux aînés, qui fera un plan Marshall pour venir en aide aux commerces,
aux artisans. Mais quand vous voyez que Marlène Schiappa...
Ça, c'est ce que porte Agnès Buzyn aujourd'hui à Paris. Et nous allons nous battre pied à pied pour faire valoir ses idées.
Quand vous voyez que Marlène Schiappa, qui fait campagne en principe pour Agnès Buzyn, estime qu'aujourd'hui, plus personne ne croit à cette victoire et à cette élection, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer ?
Mais le dernier sondage la donne à 20%. Voilà
pour... Oui, bien sûr, contre l'idée que beaucoup portaient, qu'il y aurait un effondrement d'Agnès Buzyn au moment où elle reprendrait justement cette campagne municipale. Ce n'est pas le cas. Elle a réalisé 18% au premier tour, elle est à 20% dans les sondages. Il nous reste du travail à mener, du travail de conviction. Nous avons un collectif dans cette campagne parisienne qui tient bon. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés dans cette campagne. Vous vous rappelez des conditions dans lesquelles notre candidat initial, Benjamin Griveaux, a été mis à terre par des pratiques qu'on pourrait commenter.
Vous n'avez pas réussi à faire d'accord avec Cédric Villani non plus.
C'est vrai, je le regrette. Parce que je pense que notre famille mérite de se rassembler, particulièrement dans les moments difficiles, particulièrement quand il faut porter la voix de la majorité présidentielle. J'ai toujours souhaité que nous puissions nous rassembler avec Cédric Villani. Je l'ai cherché, y compris dans ce deuxième tour. Je constate que beaucoup de ses colistiers, beaucoup des militants, marcheurs, avaient envie qu'on se retrouve. Et d'ailleurs, ils se retrouvent aujourd'hui derrière notre candidate dans les différents arrondissements. Nous allons avancer comme cela.
Le cinquième, c'est plus compliqué quand même.
Un objectif, c'est de rassembler notre famille, la majorité présidentielle.
Candidate En Marche a fait alliance avec Rachida Dati pour la mairie de Paris ensuite.
Nous avions laissé la liberté à notre candidate, qui est maire sortante du 5e arrondissement, qui est une bonne maire d'arrondissement, qui mérite de regagner le 28 mai son arrondissement, de pouvoir rassembler effectivement derrière elle. Elle a rassemblé, elle a fait une union pour pouvoir gagner son arrondissement. Mais je vais le préciser très clairement ici, je n'ai aucun doute de son soutien à Agnès Buzyn. J'ai eu l'occasion d'en discuter directement avec elle. Elle me l'a réaffirmé.
Elle soutient Agnès Buzyn.
Elle a rassemblé derrière elle. Elle continue à soutenir Agnès Buzyn. Je crois que cela se fait dans la clarté.
Très bien, on va fermer cette page parisienne. L'heure tourne, c'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Alors, des questions courtes, vous êtes pour, vous êtes contre. En tout cas, vous essayez de faire des réponses les plus brèves possibles. Est-ce que vous êtes pour ou contre, Stanislas Guérini, l'arrêt de la Ligue 1, championnat de football, alors que tous les grands championnats européens ont repris ?
Mon cœur de supporter du Paris Saint-Germain, je le précise, est contre, mais je suis pour parce que je considère que dès lors que c'était recommandé ainsi par les autorités sanitaires, je tiens cette ligne cohérente et donc je soutiens cette décision.
Sans aucune transition, sujet de société, la PMA pour toutes, pour ou contre son vote avant l'été, c'est un sujet qui a été beaucoup défendu
pour
par le parti.
Le plus tôt possible. C'est une avancée extraordinairement importante, attendue par des milliers de couples de femmes notamment. Il n'y a pas que la PMA pour toutes dans cette réforme, mais notamment cette grande réforme, elle doit être portée le plus rapidement possible.
Pour ou contre une amende de 375 euros pour les gens qui jettent un masque par terre ?
Pour. C'est inqualifiable, la lutte...
135 euros, ça ne suffisait pas, il faut monter à 400 euros.
400, c'est si on ne paye pas dans les 48 heures. Vous voyez, c'est comme quand vous faites une contravention sur le code de la route, il y a deux montants. En tout cas, pour que l'amende soit suffisamment dissuasive, on ne doit pas confondre la lutte contre le virus et la lutte contre l'environnement. Il faut absolument être dissuasif là-dessus.
Justement, pour ou contre, 25 milliards d'investissements dans la transition écolo, c'est ce que demande Pascal Canfin. Martine Aubry demande 50 milliards. Pour l'instant, on ne les voit pas, les milliards. On voit bien les milliards pour Renault, mais est-ce qu'il faut mettre des milliards dans la transition écologique ?
Bien sûr qu'il faut mettre des milliards dans la transition écologique. Nous avons commencé à le faire, nous allons le poursuivre avec un principe, là aussi, de responsabilité partagée pour les entreprises, le faire au niveau français, le faire au niveau européen. Et je suis très satisfait qu'Emmanuel Macron ait engrangé une grande victoire sur le champ européen pour convaincre nos voisins, c'est la proposition de la Commission, d'investir massivement, de garder ce New Green Deal, de ne pas faire que la lutte pour, contre le réchauffement climatique soit sacrifiée au regard de la crise et que nous allons vivre.
Justement, on a peu parlé d'écologie, mais c'était un sujet majeur. Emmanuel Macron dit qu'il va falloir que ce soit le monde d'après. On voit les milliards pour Renault, pour l'automobile. Pour l'instant, pour la transition écolo, on ne sait pas.
Pardon, je conteste votre vision qui me semble caricaturale. L'argent qui a été débloqué pour Renault, pour sauver des emplois, il n'a pas été fait sans contrepartie. Renault s'est engagé notamment à participer à ce grand consortium pour créer notre propre filière de batteries, pour développer le véhicule électrique massivement. Ça, ce sont des mesures concrètes pour la transition écologique. Je ne considère pas que les entreprises font partie des problèmes, elles font partie de la solution. Il faut les engager, il faut avoir ces principes de responsabilité partagée, et c'est exactement la vision que porte le gouvernement.
Et dernière petite question, est-ce que vous êtes pour ou contre les coups de fil du président de la République à Jean-Marie Bigard ?
Il appelle absolument qui il veut. Je suis parfois choqué du nombre d'heures que l'on consacre à commenter le coup de fil du président de la République à telle ou telle personnalité. On ne peut pas d'un côté se dire que ceux qui nous gouvernent sont déconnectés de la réalité, etc. Et puis critiquer le fait qu'il puisse appeler quelconque personnalité qui puisse exister. Mais je vais vous rassurer, il ne fait pas qu'appeler Jean-Marie Bigard.
Est-ce que ça n'abaisse pas la fonction présidentielle ? C'est aussi la question qu'il y a derrière.
Je ne crois pas. Ça abaisse parfois les débats auxquels nous nous livrons.
Très bien. Et c'est l'heure de questions nettes. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour à tous. Bonjour Stanislas Guérini. Alors Jean-Luc Mélenchon vient à l'instant de pointer du doigt la responsabilité de Christophe Castaner dans le sujet des violences policières. Sa responsabilité dans la situation est totale et absolue. Je cite donc Jean-Luc Mélenchon. Que lui répondez-vous ?
Je crois que ça doit être peut-être la 10e fois qu'il doit avoir appelé à la démission d'un ministre de l'Intérieur ou avec à chaque fois la même réaction pavlovienne. Je réponds ce que j'ai répondu en début d'émission, c'est-à-dire que Christophe Castaner a dit les choses extrêmement clairement. À chaque fois qu'il y a des comportements inappropriés, à chaque fois qu'il y a une violence, à chaque fois qu'il y a une parole raciste, elle doit être poursuivie et sanctionnée.
Et Jean-Luc
c'est la
Mélenchon
seule
pas
ligne à tenir.
Ce genre de
Mais
petite phrase.
Jean-Luc Mélenchon a à chaque fois cette posture d'opposition directe d'appeler à la démission du ministre de l'Intérieur. Moi, je dis qu'il faut entendre notre jeunesse. Évidemment, ne pas être dans le déni, ne pas balayer d'un revers
Justement,
de la
Julien
main.
Justement, Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts
c'est
complété,
la,
dit qu'il y a
seule
un déni,
position
un déni
possible.
Sur les violences racistes et policières.
On voit bien que certains politiques ont une soif d'instrumentalisation de ces mouvements-là. Moi,
c'est
je ne suis
Jean-Luc
pas.
Mélenchon, d'après.
Oui, je le pense. Et je ne suis pas dans cette position-là. Je suis ni dans le déni, ni dans l'amalgame. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule ligne qui me semble responsable aujourd'hui.
Et pour continuer sur le sujet des violences policières, on va parler du cas de Gabriel. C'est un jeune garçon de 14 ans qui a été gravement blessé à l'œil lors de son interpellation par la police à Bondy. Il est sorti de l'hôpital il y a 2 jours. On a vu les photos sur les réseaux sociaux de son visage tuméfié. Est-ce que dans le cas de Gabriel, pour vous, il s'agit là d'une violence policière ?
Je ne suis pas capable de le dire parce que je n'ai pas les moyens personnellement d'avoir mené l'enquête nécessaire, évidemment nécessaire. J'ai été, nous tous, comme vous tous, j'imagine, choqué de voir ces photographies et de me dire que cela est possible à un moment donné. C'est inimaginable. Alors oui, il faut que dans des cas comme ça, quand il y a des suspicions, il y ait des enquêtes. Mais je pense aussi que parfois, les hommes et les femmes politiques doivent faire preuve de prudence et ne pas se croire procureur, ne pas parler sans savoir. C'est ça aussi faire de la politique, c'est ça aussi d'assumer ses responsabilités. Donc si les faits sont avérés, il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement claires. Mais je ne veux pas parler sans en avoir tous les détails.
Alors, tout autre sujet, en début d'émission, vous avez dit pourquoi pas avoir recours aux emplois aidés pour aider les jeunes à retrouver du travail. Alors pourtant, en 2017, Emmanuel Macron lui-même déclarait qu'il n'était pas sain, je le cite, d'avoir recours à ces fameux emplois aidés et que trop souvent même c'était une perversion de la politique de l'emploi. Donc maintenant, vous avez complètement changé d'avis.
Non. D'abord, nous n'avons pas du tout supprimé tous les emplois aidés existants.
Vous les avez défaits quand même commencer. En un été, assez rapidement.
On
les
a élus et diminué leur nombre pour créer à la place des parcours emploi compétences, c'est-à-dire des aides qui sont à chaque fois liées à un dispositif d'accompagnement pour permettre aux jeunes notamment qui en bénéficient de plus rapidement pouvoir accéder à un emploi durable. Quand on regarde les emplois aidés tels qu'ils étaient faits avant, il y avait un quart de ces emplois qui donnaient lieu à un emploi durable après. Est-ce qu'on pouvait se satisfaire de cela ? Je ne crois pas. Et donc, si dans cette période de crise, notamment parce qu'il va falloir aider les petites associations, celles qui sont très en difficulté aujourd'hui, on puisse imaginer des dispositifs temporaires pour justement permettre d'avoir des emplois aidés, pour leur permettre de passer ce cap-là, de faire face aussi à la vague sociale qu'on va prendre sur la figure, je n'y suis pas défavorable. Mais en aucun cas...
Je ne sais pas le chiffrer
aujourd'hui, mais en aucun cas, je crois que je ne remets en cause la position que nous avions. Tout faire pour favoriser l'insertion et l'emploi durable, cela reste ma ligne aujourd'hui.
Et une autre question, cette fois-ci d'un internaute qui vous est posée directement sur le compte Twitter du Grand Jury. Pierre Moscovici est nommé à la tête de la Cour des comptes et donc cet internaute vous dit comment expliquer sa nomination, à part que cela s'apparente à du copinage d'après lui.
Cela s'apparente à de la compétence avant tout. Chacun connaît le parcours de Pierre Moscovici, son parcours sur la scène française, sur la scène européenne aujourd'hui. C'est une grande personnalité qui sera, je crois, assumer ses fonctions à la Cour des comptes. C'est une fonction qui est extrêmement importante. Il va avoir du pain sur la planche. La situation de nos comptes publics est dégradée par la situation de crise que nous connaissons. Et je suis heureux pour ma part que Pierre Moscovici puisse l'assumer aujourd'hui.
Il en a fait des compétences. C'est une personnalité de l'opposition qui est ce poste. On avait vu Nicolas Sarkozy nommer Didier Migaud. C'est un usage républicain.
Je n'ai pas le sentiment que Pierre Moscovici faisait partie de ceux qui, en première ligne, ont soutenu le président de la République au moment de la présidentielle. Il travaille avec ce gouvernement de façon constructive. Il l'a fait depuis son poste de commissaire européen. Il continuera de servir la France. Ne nous abaissons pas à ce type de polémique. Prenons les compétences là où elles sont. En l'occurrence, elles sont très grandes en ce qui concerne Pierre Moscovici.
Marie-Pierre. Et une toute dernière question. Alors, chaque vidéo ou déclaration du professeur Didier Raoult déclenche des avis très tranchés sur les réseaux sociaux. Et donc, dans sa dernière apparition à la télévision, il se compare au joueur de foot Kylian Mbappé et il dit « Je suis une star des maladies infectieuses » et il dit même « L'élite, c'est moi ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou alors vous trouvez qu'il en fait beaucoup trop ?
Je trouve qu'il en fait un petit peu beaucoup, effectivement. Moi, je ne me déclarerai jamais compétent en matière de médecine ou d'épidémiologie. Je ne suis pas sûr qu'il soit compétent en matière footballistique. Je propose que chacun en reste dans son camp, dans son champ de compétences, et on avancera très bien ainsi. Oui, il y a une part de show qui est parfois un petit peu dérangeante dans ses propos.
Une question simplement, c'est à la mode en ce moment. Tout le monde revendique un peu l'héritage du général de Gaulle, y compris Amélie Carrère, Marine Le Pen.
Oui, selon elle, le Rassemblement National est la continuité des idées du général de Gaulle, et Emmanuel Macron en serait l'antithèse.
Vous savez, je vois que chacun veut revendiquer son petit bout de croix de Lorraine aujourd'hui pour asseoir je ne sais quelle position. Je pense que le général de Gaulle a toujours été opposé à la vision et aux idées extrêmes de Marine Le Pen. Il se retournerait dans sa tombe en entendant cela. Je préfère me contenter de ses propos.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour le 18 juin ?
Bien, je le verrai, je n'ai pas encore décidé.
Très bien. Dernière question ? Non, ça sera le mot de la fin.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.